rencontré à l'ambassade équatorienne de Londres, Julian Assange joue toujours au jeu du chat et de la souris avec les États-Unis qui demandent son extradition. Ce soir à Beaux-Arts à Bruxelles est projeté dans le cadre du Millennium Festival, le festival de documentaires à Bruxelles, le film Hacking Justice qui a été tourné sur plusieurs années. Il suit le combat de Julian Assange et de son équipe juridique dirigée par Xavier Garzon qui a été connu pour avoir emprisonné Pinochet quand il était juge. Christophe Marchand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat belge en droit international. Vous défendez également les intérêts de Julian Assange. Quelles sont les conditions de vie du fondateur de Wikileaks à l'heure où on parle ?
Les conditions sont très mauvaises, hein. Donc il est dans l'ambassade d'Équateur, là, dans le centre de Londres, ce sont des bureaux. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de terrasse, qu'il est tout à fait confiné. Donc c'est quelques petites pièces en enfilade, il n'a jamais accès à l'air ou à quoi que ce soit. Donc c'est vraiment des conditions très difficiles, parce que c'est comme s'il était en prison en fait.
Et il occupe son temps comment ?
Il travaille beaucoup, hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est une bête de travail, donc il continue ses activités au niveau de Wikileaks. On sait que depuis qu'il est arrêté, donc 2012, donc ça fait presque 6 ans maintenant, en juin, ça fera 6 ans, depuis qu'il est dans cette ambassade, Wikileaks a continué à faire des révélations, donc il continue son travail de lanceur d'alerte.
Alors 6 ans dans une ambassade, ça illustre quoi ? Qu'est-ce que ça illustre de notre système juridique, ça ?
Oui, voilà, mais c'est ça le problème avec l'affaire Assange. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il avait été poursuivi pour une accusation de viol
en Suède. Agression sexuelle.
Voilà. Et puis, il a été, les charges ont été levées par le procureur suédois après 4 ans et demi, 5 ans de procédure. Parce qu'il n'y avait pas de charges. Hein. Donc, nous, on a travaillé sur le dossier pour essayer d'étudier ce qu'il y avait dedans. Les accusations étaient tout à fait non fondées. Donc, c'était finalement une répression qui était utilisée pour le museler. Et c'est bien ça, ce qui concerne les journalistes quand ils sont gênants, hein, parce que c'est un peu un travail de journaliste, eh bien on essaie de les museler, de les faire taire. Et donc le procès suédois avait pour objectif de le salir, faisait un peu, a eu pour conséquence qu'il a dû, pour éviter d'être envoyé aux États-Unis, se réfugier dans l'ambassade.
Comment un État démocratique comme la Suède peut rentrer dans ce cheminement-là, dans ce jeu-là ?
Alors on ne sait pas, évidemment, on n'a pas les informations derrière le rideau qui le concerne, mais ce qu'on a compris, en tout cas ce qu'on a craint, c'était que la Suède voulait Assange pour l'extrader directement aux États-Unis et qu'aux États-Unis, il serait là poursuivi pour les infractions les plus graves, trahison, et qu'il serait mis en prison toute la vie. Il y a même des personnes qui voulaient qu'il soit tué, c'est-à-dire qu'il soit condamné à mort, pour avoir révélé des secrets d'État américains.
Des États démocratiques peuvent-ils sortir du champ démocratique et devenir des États vengeurs,
oui,
vendetta, etc. Mais c'est quand même un peu dingue.
Mais c'est une vieille histoire, ça a toujours été comme ça. Je veux dire, les États, à un moment donné, quand ils ont des questions de secret d'État ou des questions qui touchent à leur essence, utilisent des moyens parfois qui sont disproportionnés. Et ici, le fait d'avoir révélé que les États-Unis ont commis des exactions de manière systématique en Irak, par exemple, pendant la guerre en Irak, et d'avoir montré, hein, on se rappelle, c'est l'affaire Chelsea Manning, vous vous souvenez, ce soldat américain qui avait révélé toutes les exactions commises par les Américains en Irak, eh bien à ce moment-là, quand on touche aux intérêts, l'État se venge et il ne va jamais laisser la personne en paix.
Alors aujourd'hui, il y a un État qui recherche par-dessus tout à récupérer, à extrader des citoyens, c'est l'État espagnol,
oui.
Qui cherche à pouvoir juger Carles Puigdemont et certains de ses ministres. Vous défendez les intérêts de Carles Puigdemont et de trois de ses ex-ministres catalans qui sont présents ici en Belgique. Carles Puigdemont, lui, il est en prison en Allemagne depuis dimanche.
Dimanche.
Quelle est sa situation ? Qu'est-ce que vous avez comme information ?
Il a été arrêté donc dimanche. On était en réunion avec les autres ministres pour justement préparer, puisqu'on avait appris que l'État espagnol avait réactivé les ordres d'arrestation. Et puis il nous a téléphoné pour dire qu'il était arrêté à la frontière. Alors maintenant, il a été présenté à un juge hier. Il va être dans une procédure là-bas en Allemagne qui va décider si oui ou non il doit être extradé vers l'Espagne.
Et vous attendez une procédure au long cours ?
Écoutez, moi je ne suis pas spécialiste de la procédure allemande. La coopération avec les avocats allemands se fait au niveau des arguments, puisqu'on développe les mêmes arguments à la fois en Belgique, à la fois en Écosse, puisqu'il y a une ministre qui est en Écosse, et puis en Suisse, puisqu'il y en a qui sont en Suisse, qui sont des arguments qui sont tirés du fait que l'État espagnol viole de manière flagrante les droits fondamentaux, la base finalement de l'État démocratique européen.
Et pour ce qui est des trois ministres qui sont présents ici en Belgique, est-ce que les autorités belges vont activer le même type de procédure qu'en Allemagne pour Carles Puigdemont ?
Alors l'information a été donnée hier par le procureur du roi en Belgique, qui n'allait pas arrêter les ministres catalans dans l'attente qu'ils soient présentés à un juge. Donc ils sont pour l'instant libres et on attend une convocation pour aller devant le juge qui va alors décider si oui ou non, premièrement, il les met en prison dans l'attente de toute la procédure d'extradition et deuxièmement, s'ils vont être extradés vers l'Espagne.
Aujourd'hui, il y a peu de chances que Carles Puigdemont revienne ici en Belgique ?
Ça, je ne sais pas. La chance, c'est pas vraiment la question. La question, c'est de savoir s'il a des droits. Et il a des droits. L'État espagnol agit de manière tellement irrationnelle dans ce dossier qui touche à l'unité de l'Espagne, qui semble être sacro-sainte. Et le pouvoir judiciaire espagnol semble être tellement peu, je dirais, raisonnable qu'on espère bien, oui, que les droits fondamentaux et que les droits de l'Union européenne fondamentaux vont primer, finalement, sur la rage répressive espagnole.
La rage répressive, vous dites quoi ? Vous dites comme pour les États-Unis avec Julian Assange, l'Espagne est un État vengeur ?
Oui, voilà, c'est ça que j'aime bien, la comparaison entre les deux, parce que finalement, c'est deux dissidences, on va dire. Assange et Wikileaks, c'est une dissidence, ce sont des gens qui émettent des informations contre les États centraux. Et puis les Catalans, ben, c'est une minorité en Espagne, ils défendent un point de vue qui est dissident, et ils sont réprimés fortement. C'est un peu le parallèle entre les deux, c'est cette répression, cette hyper-répression, cette rage répressive. Hein, quand on voit maintenant en Catalogne, il y a 9 personnes maintenant qui sont en détention, c'est vraiment quelque chose qui est inacceptable au XXIe siècle dans l'Union européenne.
Du point de vue juridique, pour les trois ministres qui sont présents en Belgique, vous êtes confiant sur leur maintien ici en Belgique ?
C'est difficile la confiance. Moi, je suis confiant dans la justice. Hein. Je ne suis pas confiant dans le résultat. Je ne sais pas, ce sont les juges qui décident, c'est eux qui ont tout en main. Mais je pense qu'on a des arguments qui sont très forts pour démontrer, avec les faits, avec le droit, que la situation qu'ils subissent ou qu'ils subiront en Espagne est une situation injuste, comme je dis, contraire vraiment aux bases de l'État démocratique dans l'Union européenne.
Christophe Marchand.